Troisième partie. Chapitre 3. La nuit sur le marécage. Quand le fils du léopard eut tourné le feu, il déposa l'homme sur les herbes sèches et le considéra avec surprise et méfiance. C'était un être extraordinairement différent des oulamres, des xams et des nains rouges. Le crâne, excessivement long et très mince, produisait un poil chétif, très espacé. Les yeux, plus hauts que larges, obscurs, ternes, tristes, semblaient sans regard. Les joues se creusaient sur de faibles mâchoires, dont l'inférieur se dérobait ainsi que la mâchoire des rats. Mais ce qui surprenait surtout le chef, c'était ce corps cylindrique, où l'on ne discernait guère d'épaules, en sorte que les bras semblaient jaillir comme des pattes de crocodile. La peau se montrait sèche et rude, comme couverte d'écailles, et faisait de grands replis. Le fils du léopard songeait à la fois au serpent et au lézard. Depuis que Nao l'avait déposé sur les herbes sèches, l'homme ne bougeait pas. Parfois ses paupières se soulevaient lentement, son œil obscur se dirigeait sur les nomades. Il respirait avec bruit, d'une manière rauque, qui était peut-être plaintive. Il inspirait à Nam et à Gao une vive répugnance. Ils l'eussent volontiers jeté à l'eau. Nao s'intéressait à lui parce qu'il l'avait sauvé des ennemis, et beaucoup plus curieux que ses compagnons, il se demandait d'où l'autre venait, comment il se trouvait dans le marécage, comment il avait reçu sa blessure, et si c'était un homme ou un mélange de l'homme et des bêtes qui rampent. Il essaya de lui parler par gestes, de lui persuader qu'il ne le tuerait point. Puis il lui montra l'abri des nains rouges, en faisant signe que c'était d'eux que viendrait la mort. L'homme, tournant son visage vers le chef, poussa un cri sourd et très guttural. Nao crut qu'il avait compris. Le croissant touchait au bout du firmament, la grande étoile bleue avait disparu. L'homme, à demi redressé, appliquait des herbes sur sa blessure. On voyait parfois une faible scintillation dans son œil opaque. Lorsque la lune sombra, les étoiles allongèrent leur scintillation sur les ondes et l'on entendit travailler les nains rouges. Ils travaillèrent toute la nuit, les uns chargés de branchages, les autres avançant le retranchement. Plusieurs fois, Nao se leva pour combattre, mais il percevait le nombre des ennemis, leur vigilance et leurs embûches. Il comprenait que chaque mouvement des oulamres serait dénoncé, et il se résigna, comptant sur les hasards de la lutte. Une nouvelle nuit passa. Au matin, les nains rouges lancèrent quelques sagaies qui vinrent s'abattre près du retranchement. Ils crièrent leur joie et leur triomphe. C'était le dernier jour. Au soir, les nains achèveraient d'avancer leurs abris. L'attaque se produirait avant le coucher de la lune. Et les oulamres scrutaient l'eau verdâtre avec colère et détresse, tandis que la faim rongeait leur ventre. Dans la lueur du matin, le blessé semblait plus étrange. Ses yeux étaient pareils à du jade. Son long corps cylindrique se tordait aussi facilement qu'un ver. Sa main sèche et molle se recourbait bizarrement en arrière. Soudain, il saisit un harpon et le darda sur une feuille de nénuphar. L'eau bouillonna, on aperçut une forme cuivrée, et l'homme, retirant vivement l'arme, amena une carpe colossale. Nam et Gao poussèrent un cri de joie. La bête suffirait au repas de plusieurs hommes. Ils ne regrettèrent plus que le chef eût sauvé la vie de cette créature inquiétante. Ils le regrettèrent moins encore quand il eut capturé d'autres poissons, car il avait un instinct de pêche extraordinaire. L'énergie renaquit dans les poitrines. Voyant qu'une fois de plus l'action du chef avait été bienfaisante, Nam et Gao s'exaltèrent. Parce que la chaleur courait dans leur chair, ils ne crurent plus qu'ils allaient mourir. Nao saurait tendre un piège aux nains rouges, les faire périr en grand nombre et les épouvanter. Le fils du léopard ne partageait pas cette espérance. Il ne découvrait aucun moyen d'échapper à la férocité des nains rouges. Plus il réfléchissait, mieux se révélait l'inutilité des ruses. À force de les repasser dans son imagination, elles s'usaient en quelque sorte. Il finissait par ne plus compter que sur la rudesse de son bras et sur cette chance en qui les hommes et les animaux, que de grands périls n'ont pu atteindre, mettent leur confiance. Le soleil était presque au bas du firmament, lorsque l'ouest s'emplit d'une nuée tremblotante qui se disjoignait continuellement et où les oulâmres reconnurent une étrange migration d'oiseaux. Avec un bruit de vent et d'ondes, les bandes rauques des corbeaux précédaient les grues aux pattes flottantes, les canards dardant leurs têtes versicolores, les oies aux outres pesantes, les étourneaux lancés comme des cailloux noirs. Pêle-mêle affluaient des grives, des pies, des mésanges, des sansonnets, des outardes, des hérons, des engoulevents, des pluviers et des bécasses. Sans doute là-bas, derrière l'horizon, quelques rudes catastrophes les avaient épouvantés et chassés vers des terres nouvelles. Au crépuscule, les bêtes velues suivirent. Les élaves galopaient éperdument, avec les chevaux vertigineux, les mégacéros ronflants, les saïgas aux pattes fines. Des hordes de loups et de chiens passaient en cyclone. Un grand lion jaune et sa lionne faisaient des bonds de 15 coudées devant un clan de chacals. Beaucoup firent halte auprès du marécage et s'abreuvèrent. Alors, la guerre éternelle, suspendue par la panique, se ralluma. Un léopard bondit sur la croupe d'un cheval et se mit à lui ronger la gorge. Des loups fondirent sur une horde de saïgas, un aigle emportait un héron dans les nuées, le lion, avec un long rugissement, épiait les proies fugitives. On vit surgir une bête basse sur pattes, presque aussi massive que le mammouth, et dont la peau formait une écorce profonde et ridée comme celle des vieux chênes. Peut-être le lion ne la connaissait-il pas, car il poussa un second rugissement avec la menace de sa tête formidable, de ses crocs de granit et de sa crinière hérissée. Le rhinocéros, agacé par ce bruit de foudre, leva un mufle cornu et fonça furieusement sur le félin. Ce ne fut pas même une lutte. Le haut corps roux culbuta, roula sur lui-même, tandis que la masse rugueuse continuait sa course aveugle, ayant vaincu sans presque s'en apercevoir. Une plainte caverneuse de douleur et de rage jaillissait des flancs du lion. La stupeur d'avoir senti sa force aussi vaine que celle d'un chacal appesantissait son crâne obscur. Nao avait fiévreusement espéré que l'invasion des bêtes chasserait les nains rouges. Son attente fut déçue. L'exode ne fit qu'effleurer l'air où campaient les assiégeants et, lorsque la nuit refoula les cendres du crépuscule, des feux s'allumèrent sur la plaine, des rires féroces s'entendirent. Puis le site redevint silencieux. À peine si quelques courlis inquiets battaient des ailes, si des étourneaux bruissaient dans les oseraies, ou si la nage d'un saurien agitait les nymphéas. Pourtant, des créatures singulières parurent au ras de l'eau et se dirigèrent vers l'îlot voisin de l'arête granitique. On distinguait leur passage au remous des eaux et à l'émergence de têtes rondes couvertes d'algues. Il y en avait 5 ou 6. Nao et l'homme sans épaules les observaient avec méfiance. Enfin, elles abordèrent dans l'îlot, se mirent sur une saillie rocheuse, puis leurs voix s'élevèrent, sarcastiques et farouches. Nao, avec stupeur, reconnut des hommes. S'il en avait douté, les clameurs qui répondirent au long de la rive auraient dissipé son incertitude. Il sentait avec rage que les nains rouges, profitant de l'immigration des bêtes, venaient de vaincre sa vigilance. Mais comment s'était-il frayé un passage? Il y rêvait, farouche, lorsqu'il vit l'homme sans épaules tracer de la main, avec persistance, une direction qui partait de la rive et aboutissait à l'îlot. Puis il montrait l'arête granitique. Le fils du léopard devina qu'il devait y avoir une deuxième arête qui atteignait presque la surface du marécage. Maintenant, l'ennemi était là, sur son flanc, plein de pièges, et il fallait s'étendre derrière les saillies pour éviter ses pierres et ses sagaies. Le silence avait saisi le marécage. Nao continue à veiller sous les constellations tremblotantes. Le buisson des nains rouges s'avance lentement. Avant la moitié de la nuit, il touchera presque le feu des nomades et l'attaque se produira. Elle sera difficile. Les nains rouges devront franchir les flammes qui occupent toute la largeur de l'arête et se prolongent pendant plusieurs coudées. Comme Nao, tout son instinct tendu, pense à ces choses, une pierre partie de l'îlot roule sur le bûcher. Le feu siffle, une petite vapeur s'élève, et voici qu'un deuxième projectile passe et retombe. Le cœur figé, Nao comprend la tactique de l'ennemi. À l'aide de cailloux enveloppés d'herbe humide, il va tenter d'éteindre le feu ou de l'amortir suffisamment afin de faciliter le passage aux assaillants. Que faire? Pour qu'on pût atteindre ceux qui occupent l'îlot, non seulement il faudrait qu'ils se découvrissent, mais les oulâmres eux-mêmes devraient s'exposer à leurs coups. Tandis que le fils du léopard et ses compagnons s'agitaient furieusement, les pierres se succédaient. Une vapeur continue fusait parmi les flammes. Le buisson des nains rouges s'avançait sans relâche. Les nomades et l'homme sans épaules frémissaient de la fièvre des bêtes traquées. Bientôt, toute une partie du feu commença de s'éteindre. « Nam et Gao sont-ils prêts ?» demanda le chef. Et, sans attendre leur réponse, il poussa son cri de guerre. C'était une clameur de rage et de détresse, où les jeunes hommes ne retrouvaient pas la rude confiance du chef. Résignés, ils attendaient le signal suprême. Mais une hésitation parut saisir Nao. Ses yeux palpitèrent, puis un rire strident jaillit de sa poitrine, et l'espoir dilata son visage. Il mugit. « Voilà 4 jours que le bois des nains rouges sèche au soleil !» Se jetant sur le sol, il rampa vers le bûcher, saisit un tison et le lança de toutes ses forces contre le buisson. Déjà l'homme sans épaules, Nam et Gao l'avaient rejoint, et tous 4 jetaient éperdument des brandons. Surpris de cette manœuvre singulière, l'ennemi avait, au hasard, dardé quelques sagaies. Quand enfin il comprit, les feuilles sèches et les ramilles brûlaient par centaines. Une flamme énorme grondait autour du buisson et commençait à le pénétrer. Pour la seconde fois, Nao poussait un cri de guerre, un cri de carnage et d'espérance qui gonflait le cœur de ses compagnons. Les Oulam auront vaincu les dévoreurs d'hommes. Comment n'abattraient-ils pas les petits chacals rouges? Le feu continuait à dévorer le buisson. Une longue lueur écarlate s'étendait sur le marécage, attirait les poissons, les sauriens et les insectes. Les oiseaux élevaient parmi les roseaux un grand claquement d'ailes, et les loups mêlaient leurs hurlés au ricanement des hyènes. Tout à coup, l'homme sans épaules se dressa avec un mugissement. Ses yeux blancs phosphoraient, son bras tendu montrait l'Occident. Et Nao, se tournant, aperçut sur les collines lointaines un feu semblable à la lune naissante.